Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chasse au trésor, ou plus exactement pour lire ensemble l'ouvrage Le trésor du cygne noir, paru chez Delcourt dans la collection Mirage, avec un dessinateur que nous aimons beaucoup, qui vient de l'autre côté des Pyrénées. Il s'agit de Paco Roca, et qui nous propose sa nouvelle bande dessinée d'après le livre de Guillermo Corral. Alors vous prononcerez bien sûr ces noms hispaniques beaucoup mieux que moi, Thierry. D'ailleurs, Guillermo Corral accompagne ici pour l'adaptation de cette bande dessinée Paco Roca. Alors, peut-être est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous rappeler pourquoi nous aimons beaucoup cet auteur espagnol.
C'est un auteur qu'on a apprécié dans toute la multiplicité de son talent. J'avais personnellement désigné La Maison comme la meilleure bande dessinée parue cette année-là. Un livre autobiographique sur l'histoire d'une maison qu'on vide après la mort des parents. Mais c'est quelqu'un qui a raconté l'histoire de la Nueve, les Espagnols qui ont libéré Paris à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui a pu parler aussi d'Alzheimer. Toujours délicat de parler de la maladie d'une façon intelligente, drôle même. C'est quelqu'un qui a versé dans le fantastique avec Les Rues de Sable. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il fasse, arrive à être d'une parfaite fluidité dans sa façon de raconter. Fluidité au niveau graphique et puis au niveau narratif. Et en même temps, mettre toujours la petite touche d'humain qui fait qu'on croit ces personnages. C'est des gens qu'on pourrait rencontrer dans la rue, qu'on pourrait se faire avec grand plaisir des amis, avec beaucoup de crainte des ennemis, parce que dans ce livre, il y a des gens qui sont très méchants.
Peu recommandables, effectivement.
Voilà, qui sont des puissants adversaires.
Le livre, ici, on peut le dire d'emblée, et je crois que c'est ce qui vous a marqué, en fait, ça pourrait être un film d'aventure.
Oui, parce que c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de la lutte entre le gouvernement espagnol et puis un chasseur de trésors américain pour la possession d'un trésor à la fois archéologique et un trésor au sens monnaie sonnante et trébuchante. Et c'est vraiment un film. Alors, en préparant l'émission, on disait on voulait faire lire ce livre et qu'on aurait beaucoup de mal à le raconter sans dévoiler les multiples rebondissements. Parce que alors, tous les ingrédients sont réunis pour faire un film parfait, parce qu'on a des personnages très forts, très charismatiques. Je le disais, ce chasseur de trésors, Frank Stern, à la tête d'une société qui s'appelle Ithaca, une société qui est spécialisée dans la détection et puis la collecte des trésors archéologiques, mais d'une façon pas du tout respectueuse. Hein. C'est-à-dire, ils utilisent un gros aspirateur et ils détruisent tout, ils gardent ce qui a vraiment de la valeur.
Et puis en plus, c'est presque du vol, parce
c'est,
que
bon, voilà, alors après,
ça arrange, quoi.
Oui, c'est un des thèmes évoqués dans cet album, d'ailleurs. Et puis en face de lui, des vrais patriotes espagnols, employés au ministère de la Culture, qui, eux, vont remuer ciel et terre, qui vont employer des moyens technologiques très raffinés, ou aussi bien la bonne vieille méthode de la recherche dans les archives. Et Dieu sait si recherche dans les archives, ça implique un travail monstrueux pour contrecarrer ces plans. Donc, il y a vraiment des personnages très emblématiques, une suite de procès avec rebondissements. Alors, les procès, on sait qu'à l'écran, ça donne des films formidables. Pour faire un bon film, faites un film de procès. Depuis, je crois, l'invention du cinéma, on n'a jamais trouvé mieux comme ressort dramatique, unité de lieu, de temps, d'action, et puis rebondissements successifs.
Je sens que vous avez des scénarios en préparation,
oui.
Thierry.
Et puis, oui, c'est ce que je disais en préparant l'émission, c'est qu'il y a des rebondissements qu'on ne voit pas venir, parce que les personnages sont tous liés les uns avec les autres. On se dit, dans un premier temps, quelles sont ses motivations? Sont celles-là, celles-là, celles-là? Il est de quel côté de celui-là? Et finalement, pas tant que ça, ou pour d'autres raisons, où il dévoile ses véritables intentions à un moment ou à un autre. Donc c'est un défi, cet album. Mais c'est un défi, en tout cas, qui est brillamment relevé par Paco Roca et son acolyte Corral.
Il y a même de la romance.
Oui, et puis la petite touche de romance entre deux employés du ministère. C'est en ça que je dis que Paco Roca est un excellent auteur, c'est que ça pourrait être un peu gnangnan, un peu fleur bleue, un peu pièce rapportée, c'est cette espèce de romance qui donne un peu une épaisseur psychologique à ces personnages qui sont tout entiers plongés dans leur quête. On oublie la vie réelle, ben non, ils en oublient pas tant que ça la vie réelle. Ils ont un petit cœur tout mou qui bat dans leur poitrine.
C'est beau.
Oui, et on y croit. Et du coup, ça augmente le capital sympathique qu'on a envers ces personnages.
Alors, on peut dire qu'il y a d'emblée un clin d'œil à la Tintin, dès la couverture d'ailleurs de cet ouvrage. Le trésor du cygne noir, ça fait penser à un autre trésor d'un certain Hergé.
Mille Sabords.
Capitaine Haddock.
François de Haddock et Rackham le Rouge.
Voilà.
Le fameux trésor, ce serait une épave qui aurait coulé aux environs du détroit de Gibraltar, L'histoire du bateau proprement dit, on la connaît. On est en 1802, on est en pleine guerre napoléonienne. L'Espagne est engagée un peu malgré elle du côté de Napoléon. Le blocus britannique se met en place. Et le gouvernement espagnol décide de rapatrier, en vue de ce blocus total, il décide de rapatrier tout l'argent sous forme de pièces d'or, de bijoux, etc., de tout d'objets de valeur qui se trouvent en Amérique. Il va pour ça affréter deux bateaux qui seront rejoints par deux autres bateaux en cours de route. La traversée se passe aussi bien que possible. Les bateaux sont remplis à ras-bord d'objets précieux, mais aussi de colons avec leurs familles. Donc c'est des navires qui servent aussi pour rapatrier hommes, femmes et enfants. Et ils vont être arraisonnés par un navire anglais qui va leur donner ordre de remettre la cargaison, de se constituer prisonniers, ce que refuse énergiquement le commandant espagnol en disant « Nous ne sommes pas en guerre, donc il n'y a aucune raison que je vous donne ma cargaison. » Et ni une des deux, les Anglais vont couler les bateaux. Ils vont couler un bateau, ils vont couler le fameux signe noir et ils vont arraisonner les autres bateaux. Donc c'est un fait de guerre. Oui, si on était fourbe, on dirait c'est la perfide Albion qui est à la hauteur de sa réputation.
Maintenant que le Brexit est consommé, on peut le dire.
Non, nous adorons les Anglais et la culture anglaise, on l'a prouvé. Donc le bateau disparaît à une très grande profondeur, il devient presque mythique. Et quand Frank Stern et la société Ithaca s'intéressent à une mystérieuse épave située à cet endroit, ça chatouille les oreilles de certains employés du ministère de la Culture en disant « Est-ce que ce serait pas ce fameux signe noir ?» Alors je vous épargne les détails, en fait, les uns se cachent d'une façon très technologique, très poussée, les autres les cherchent de la même façon hyper technologique. Et effectivement, la société Ithaca a bien mis la main sur le signe noir. Et dès lors, ça va être un bras de fer entre Stern et puis sa bande de gangsters. En fait, c'est des gens qui font vraiment peur, lourdement armés, prêts à tout. Une petite troupe paramilitaire derrière son chef. Et en face, il y a les employés du ministère de la Culture espagnol. Mais il y a surtout un avocat.
Voilà.
Un avocat d'un cabinet américain qui va prendre fait et cause pour eux. Quand je parlais de l'efficacité des scènes de procès, il y aura un procès où tout le monde va dégainer ses arguments. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est tellement bien raconté, il y a tellement de rebondissements, on croit que c'est gagné, et puis en fait, il y a une astuce juridique qui remet tout à plat. C'est un récit qui est rondement mené, qui vous tient en haleine jusqu'à la fin. Quand je dis jusqu'à la fin, c'est vraiment jusqu'à la toute fin, parce que je ne vais pas spoiler l'histoire en disant, puisque c'est une histoire vraie, les Espagnols vont gagner après force péripétie. Mais jusqu'au bout, les Américains vont tenter de remettre la main sur le trésor, ou au moins de faire en sorte qu'il soit perdu pour tout le monde. J'en dis pas plus. Et là, on est vraiment dans le cinéma d'action à grand spectacle, et pourtant, c'est vrai. Et
on a presque l'impression également que l'histoire se rejoue, même si les Américains ont remplacé les Anglais.
Oui, alors je vais tomber dans le panneau de la caricature pure et simple, mais c'est un peu la lutte des Latins, du vieux monde. Les Espagnols contre les Américains, c'est la lutte des Espagnols contre les Anglais. Contre les Anglo-Saxons, deux siècles de distance.
Une histoire vraie à rebondissement, film d'espionnage presque aussi.
Tout le monde a une identité, tout le monde a des motivations qui ne sont pas celles qu'on pense être. Tout le monde espionne tout le monde essaie d'avoir un coup d'avance sur l'autre. C'est impressionnant de voir comment, je le répète, Paco Roca arrive à fluidifier le récit. Qui pourrait être austère et puis rébarbatif, parce qu'il y a beaucoup de précisions techniques. Ça joue beaucoup sur l'exploration, non seulement sous-marine, mais l'exploration de vieilles archives poussiéreuses, de calculs, etc., etc. Et c'est, en fait, on est pris. On est pris d'un bout à l'autre et on tremble. Nous tremblons pour nos héros, comme on disait dans le temps.
Alors moi, ça me fait penser à un fait plutôt divers qui a eu lieu en Savoie, au niveau du lac d'Aiguebelette, où un père et son fils ont découvert un trésor dans le lac et depuis des années remontaient les pièces les unes après les autres sans avoir rien dit à personne. Et puis un jour, ils se sont fait prendre. Alors aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas, en tant que privé, s'approprier un trésor, en tout cas pas en France, puisqu'on est censé informer tout de suite les autorités et les archéologues en particulier.
Oui, les choses ont beaucoup changé dans le bon sens. Dieu merci. Rappelons que cette histoire se passe en 2007.
C'est pas loin.
Et l'implication politique est d'ailleurs très précise, parce que vous le comprendrez en lisant ce livre, j'espère que vous le lirez, c'est qu'il y a des choses qui se passent parce qu'il y a une certaine orientation des gouvernements respectifs américains et espagnols, degré d'indépendance des provinces espagnoles, et puis la crise économique qui va survenir, qui va changer la donne aussi. Enfin, tout est situé très précisément dans le temps, l'époque où tout cela se déroule a son importance.
Oui, et puis autre sujet de réflexion, c'est tout le trafic d'œuvres d'art qui existe aujourd'hui. Alors, les amateurs d'art passent régulièrement, en tout cas certains d'entre eux, sous silence ce qui se produit là, mais c'est l'occasion de réfléchir réfléchir aussi à l'appartenance. À qui appartient effectivement ces objets que l'on retrouve? Comment est-ce que ça se répartit tout cela? Comment est-ce que, sur le plan éthique, on considère ce type de problématique? Enfin voilà, je ne veux pas vous emmener trop loin, mais je trouve que cet ouvrage est passionnant également dans ce sens. Personnellement, moi, j'apporte un tout petit bémol, c'est sur la couverture, que je trouve du coup trop Tintin, alors que c'est un ouvrage qui nous mène beaucoup plus loin qu'une simple aventure, au final.
Alors, c'est vrai que la couverture pourrait paraître entre guillemets simpliste, mais vous lirez le livre, je ne spoile pas la fin, la case finale, c'est grosso modo la même image, mais lourde de sens. Et je n'en dis pas plus.
Voilà, le trésor du cygne noir, celui que nous vous avons présenté aujourd'hui. Un album dessiné par Paco Roca, d'après le livre de Guillermo Corral. Une parution Delcourt, collection Mirage. Merci beaucoup Thierry d'avoir partagé avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.